Chablais. Suivez-nous, on vous suit.
Voilà, voilà.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangle?
Sur Radio Chablais. Bonne nuit, sur Radio Chablais.
La question...
Pardon?
Tu dis quoi?
Sur Radio Chablais.
Alors, on va rester dans la vibe du festoiement, vu que le thème de cette émission, c'est le festoiement, la fête. Et logiquement, après les festivités, beaucoup d'entre nous se réveillent le lendemain avec la gueule de bois. Et j'ai envie de passer cette chanson de Charles Aznavour qui résume pas mal cet état d'esprit.
Où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? T'as mal à la tête, mais bois comme moi aujourd'hui, tu boiras plus demain et encore plus après-demain.
C'est assez vrai en fait tout ça, hein. C'était les deux guitares de Charles Aznavour. Et donc ça m'a donné envie de décortiquer cette expression gueule de bois. Pourquoi le bois? Pourquoi juste la gueule, hein, même quand le reste du corps ne suit pas? Alors apparemment l'origine de cette expression pourrait trouver ses racines ou son explication dans la poésie. En fait le mot gueule ça vient du latin gula, qui veut aussi dire gosier ou gorge. Et le bois, ben, vu que sa texture peut être qualifiée de rêche et âpre, ça ferait référence à cette sensation de bouche sèche, de gorge qui pique à cause de la déshydratation, comme si elle était faite en bois. Donc pour tous ceux et celles qui ont déjà vécu un lendemain de soirée trop arrosée, je suis sûre que ça vous parle. Moi, je trouve que l'expression est très bien choisie. Ceci étant dit, il me semble important de rappeler à l'antenne que l'apéro, c'est sacré. Il faut en profiter, mais toujours avec modération. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vous prendrez le vin de l'étrier. Ce qui me fait penser à cette question que je vous ai posée pour tenter de gagner les deux entrées pour le plus grand dance floor du Valais. Eh bien, le tirage au sort se fait tout de suite, donc résultat dans quelques minutes.
La question...
Pardon?
Tu dis quoi?
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Errant.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Anaïs Guéron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes danseuse, chorégraphe. On va parler avec vous d'un spectacle à la folie, hein, que vous allez produire, donner au Théâtre de l'Oriental à Vevey. C'est à Vevey qu'on se rencontre. Ça a du sens. C'est là que vous travaillez en ce moment.
Exactement. Exactement. On vient d'arriver. Là, on a amené le décor ce matin.
Voilà, donc au Théâtre de l'Oriental, ça va se jouer en marge, hein, mais dans le cadre quand même de la fête de la danse, début du mois de mai chaque année. Et votre spectacle, donc c'est du 1er au 5 mai, je le redirai, au Théâtre de l'Oriental, donc à Vevey. Vous êtes danseuse et chorégraphe, vous interprétez, vous êtes la folie, j'ai vu. Hein.
Oui.
Il y a un personnage qui doit dealer un peu avec sa folie. On en parlera un peu plus dans la deuxième partie de l'émission. Mais puis vous, c'est la folie, c'est ça?
C'est ça.
Bon, on y reviendra. Qu'est-ce que... alors moi, je vous ai dit tout de suite, hein, je dis la danse, c'est vraiment pas mon milieu. Je connais pas ce monde-là. Vous avez l'amitié de me permettre de vous poser peut-être des questions un peu sottes. J'ai l'impression qu'il y a un cliché. Les petites filles font de la danse, les garçons font du sport, ils font des sports de combat, etc. C'est un cliché, évidemment, parce qu'à la fin, il y a des femmes qui dansent, il y a des hommes qui dansent, il y a des femmes qui font du karaté, il y a des hommes qui font du karaté. Comment ça vous est venu, à vous, la danse?
Alors, la danse, ça m'est venu, je pense, depuis toute petite. Évidemment, c'est très cliché aussi ce que je vais dire, parce que je crois que j'ai demandé à faire de la danse la première fois où on m'a emmené voir un spectacle de Béjart. Voilà, c'est fait. J'ai trouvé ça magnifique.
Hein,
oui, mais c'est assez courant comme référence. Et puis, j'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai voulu en faire. Après, j'étais, pour ma part, en l'occurrence, une petite fille qui avait besoin de beaucoup dépenser d'énergie, et puis qui était attirée par des choses plutôt, allez, pour l'époque en tout cas, un peu masculine dans le sport. Et c'est vrai qu'au départ, ça m'a pas croché parce que je trouvais pas assez physique, en fait. Voilà. Je dis ça, j'avais 5 ans, hein, j'avais 4-5 ans.
Donc vous avez dit à vos parents, je veux faire du MMA.
Du coup, j'ai fait de l'équitation.
Ah ouais.
Voilà, j'ai fait 10 ans en fait à haut niveau, du coup en concours complet. Et là, j'ai chuté, j'ai fait tout un tas de choses. Je suis allée du coup jusqu'aux qualifications du championnat de France. Et puis en fait, après, j'ai eu envie de revenir à la danse parce que c'est toujours quelque chose qui m'est resté. Et puis là, je m'y suis mise et je m'y suis perdue corps et âme. Dedans, en travaillant, ben, on va dire, les chemins classiques, danse classique, danse contemporaine, moderne, jazz, au départ.
C'est forcément le trajet. On doit faire ses classes, en somme, ses pointes devant la glace avec la barre.
Je dirais que
vous
ça
voyez
dépend.
Que j'ai des images toutes faites.
Je dirais que aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, en fait. Je dirais que les frontières, ou en tout cas les lignes, se sont quand même déformées. Je dirais qu'à une époque c'était un petit peu la voie, oui. Et puis aujourd'hui on trouve un petit peu de tout et je pense qu'on peut arriver à beaucoup de choses. Il y a de magnifiques danseuses Zux qui ont des parcours qui sont pas par la voie du classique et, uniquement, ou qui n'en ont même jamais fait et qui font des magnifiques carrières. Donc je pense que ça s'est beaucoup ouvert, mais à l'époque c'est vrai qu'on avait tendance à s'inscrire d'abord au cours de danse classique à la barre et puis avec le petit tutu rose et voilà.
Je vais pas forcément le situer dans le temps parce que je connais pas bien ce monde, mais enfin j'imagine que c'est au tournant du 19e, 20e siècle qu'on a un peu cassé les codes et que tout s'est modernisé comme dans tous les autres arts. Il y a quand on est une danseuse comme vous qui en fait son métier, sa vie, il y a une tentation quand même d'aller vers les classiques, de se dire un jour je ferai le boléro de Ravel, un jour je ferai je sais pas, un grand ballet, le casse-noisette, que sais-je.
Alors probablement que pour d'autres c'est le cas. Je crois que ça a jamais été vraiment mon ambition personnelle, parce que comme je disais, j'avais besoin de choses parfois d'un athlétisme, on va dire, différent. Et puis j'ai été très très vite attirée en fait par, pour ma part, le modern jazz, mais qui avait quand même, qui demandait une grosse technique. Et puis après par la danse contemporaine et notamment le floor work aussi, qui est un travail plus au sol. Et donc j'ai été très rapidement traversée et attirée par ces énergies là
plus que perdu, hein, modern jazz, oui. Danse contemporaine, c'est quoi la différence?
La différence,
ce mot contemporain dans tous les arts, il est piégeux, hein, parce que contemporain c'est de maintenant, puis on parle de danse contemporaine probablement depuis le début du 20e siècle.
Clairement, oui, ouais. Clairement. C'est exactement ça. Disons que c'est des courants différents. On n'a pas les mêmes pratiques, déjà rien qu'en France et en Suisse. Moi j'ai fait mes études en France, donc pour la France c'était le modern jazz vient plutôt de la culture américaine, avec de toute la culture de Martha Graham, si on doit donner des références, qui sont dans c'est une nomenclature différente en fait. Mmh. Et puis le contemporain, en tout cas celui que j'ai étudié, était une technique différente qui venait du ballet contemporain. Moi j'ai beaucoup appris de Françoise Texier, qui était une héritière de la technique de Dominique Bagouet, qui vient ces gens-là venaient tous et toutes du classique. Mmh. Et ont développé une technique contemporaine. Sur des bases, c'est une déconstruction, exactement. Exactement. Mmh. Et du coup, pour en créer un nouveau langage. Et ça s'est jamais arrêté, ça a toujours continué, et en tout cas dans le milieu de la danse contemporaine.
Souvent dans les arts, j'en parle souvent avec les musiciens classiques par exemple, qui aimeraient bien des fois jammer un peu, faire du jazz, qui le font d'ailleurs de plus en plus, hein, qui mélangent un peu les gens. On est dans des chapelles dans la danse ou pas? On est mis dans des chapelles quand on fait du classique, on fait du classique, quand on fait du contemporain, on fait du contemporain?
Non, je pense pas. Je pense qu'effectivement, on a une construction corporelle qui est forcément différente suivant les techniques qu'on travaille. Mais on peut passer.
Vous parlez de la construction de la musculature du corps.
Oui, bien sûr. Oui, 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 de la physicalité, forcément, on apprend à parler une langue. Donc, pour après en apprendre une autre ou développer cette langue, on va devoir utiliser d'autres outils, faire appel à d'autres outils pour pouvoir passer de l'un à l'autre.
Ouais, c'est très proche de la musique. Hein. Un pianiste de jazz va pas avoir le même langage des doigts simplement pour jouer du classique et inversement. Vous avez utilisé le mot athlétisme. Déjà, on parle de musculature, de corporalité. C'est quand même une discipline, la danse, qui a une marge toute fine avec le sport.
Hein. Ah ben, je pense qu'elle en a même pas.
C'est du sport.
Je pense qu'elle en a même pas. C'est
la
du
danse
sport,
aux Jeux
clairement.
Olympiques.
Ça demande un entraînement aussi intense que n'importe quel sportif de haut niveau. En tout cas, quand on veut en faire professionnellement et quand on veut aller en tout cas le plus loin possible, ça demande beaucoup d'entraînement. Ça demande d'avoir une musculature développée pour ne pas se blesser. Ça demande d'avoir une discipline. Voilà.
Comme pour les autres sports, on a des entraînements spécifiques, on va en salle tout bêtement.
Ça peut, oui, ouais. Ça peut arriver, oui. Ouais, oui. Dans certaines, en tout cas, compagnies, ça arrive qu'il y ait des accompagnements plus spécifiques sportifs avec par exemple du pilates ou avec effectivement des machines en salle pour des renforcements musculaires bien spécifiques suivant les corps.
Qu'est-ce que ça prend pour vous cette discipline-là? J'imagine qu'il y a des moments où vous êtes en représentation, donc peut-être que là l'entraînement passe un petit peu au deuxième niveau. Le reste du temps, c'est quoi? C'est tous les jours
L'idéal, c'est tous les jours. Ouais. Non, l'idéal, c'est oui, en tout
puis
cas,
après,
tous les jours
vie,
de la
quoi.
Semaine, et après, il y a la vie, c'est ça. Non, c'est un entraînement quotidien, c'est assez, en tout cas pour ma part, c'est assez indispensable. Ouais.
Une hygiène.
C'est une hygiène, et puis c'est entretenir comme un musicien va entretenir ses gammes. Pour nous, c'est la même chose. Donc, c'est entretenir son vocabulaire, c'est entretenir le corps, c'est continuer à le travailler. Après, on le travaille différemment avec le temps. Mais oui.
Vous dites vocabulaire.
Oui, bien sûr, c'est un vocabulaire, c'est une façon de parler, de s'exprimer, qui passe par la gestuelle du corps, par le mouvement. C'est un lexique. Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire la fête de la danse dans ce monde qui est le vôtre? On sait que c'est là, c'est pas très grave, c'est pas très important, c'est symbolique, c'est au contraire un coup de projecteur intéressant sur votre travail.
Bah, c'est clair, parce que...
C'est européen, hein, il y en a partout dans son mois de mai.
En tout cas, c'est un événement national sur la Suisse. Et puis, c'est un événement très important. Bien sûr, c'est une occasion de montrer le travail de beaucoup d'artistes. C'est une grande fête. Mais au-delà de ça, on est aussi dans des métiers qui ont eu et longtemps et qui continuent d'avoir des fois des difficultés de reconnaissance. Donc ça, c'est aussi important qu'on puisse le représenter, le célébrer et pouvoir le montrer, permettre aux compagnies et aux artistes de présenter leur travail, parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours.
Pourquoi vous parlez de difficultés de reconnaissance? Moi, il me semble que la danse, au contraire, a une histoire millénaire. Elle est née en même temps que l'humanité. Probablement, il y a des liens avec la religion. Énormément d'écrivains, de peintres, d'artistes se sont intéressés à la danse, peut-être sans la rationaliser, mais en y voyant le moyen d'expression ultime. Et il me semble qu'au contraire, ça fait partie des arts reconnus par la Grèce antique. Hein,
c'est vrai, ça c'est l'évidence.
Maintenant, c'est pas.
Et après, il y a la vraie vie. Après, il y a la vraie vie qui fait que voilà, ça a quand même toujours été. Il y a eu quand même régulièrement des luttes pour faire reconnaître auprès des institutions que c'est un métier qu'il est très exigeant et voilà.
C'est plus difficile aussi d'élargir un public, peut-être. Hein. Il y a un public mordu vraiment de la danse. On va peut-être pousser la porte d'un théâtre par curiosité, parce qu'on connaît l'auteur. La danse, c'est plus compliqué.
La danse, c'est parfois plus compliqué, parce que je pense qu'il y a, à certains, sur un certain plan, c'est plus abstrait. C'est une forme plus abstraite. De compréhension aussi, donc
il faut donner un petit livret avec le vocabulaire,
voilà,
hein,
c'est ça, il faut donner le lexique, le dictionnaire. C'est le dictionnaire. Non, je pense qu'il y a, il y a une esthétique qui plaît. Après, effectivement, parfois ça donne des objets plus abstraits et puis, mais là on parle d'un certain type de danse ou de spectacle. Il y a énormément de choses et encore plus pendant les fêtes de la danse. Et je pense qu'il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts et je pense que ça peut attirer beaucoup de monde.
À la folie, on va parler de ce spectacle que vous allez donner du 1er au 5 mai, donc dans le cadre de cette fête de la danse au Théâtre de l'Oriental qui vous accueille. On en parle dans la deuxième partie de cette émission.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Anaïs Gléron se retrouve sur les quais, hein, au bord du lac à Vevey, tout proche du Théâtre de l'Oriental, où vous allez donner ce spectacle à la folie du 1er au 5 mai, donc dans le cadre de la fête de la danse, sous un petit soleil de fin avril, hein, qui pourrait être un soleil de janvier. Mais bon, on espère que l'ambiance sera plus chaude au moment où votre spectacle sera donné. Spectacle pluridisciplinaire, c'est ce que dit le flyer. Ça dit pas danse, le mot danse n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire?
Pluridisciplinaire, déjà, ça veut dire qu'on a avec nous un musicien et une musicienne live, Jean-Samuel Racine et Laurence Crevoisier, qui nous accompagnent en fait tout au long du spectacle et qui a la particularité, c'est qu'ils jouent derrière le public. Donc ils accompagnent en fait l'action. En direct, en fonction de ce qu'ils voient. Donc, il y a bien sûr des choses qui sont plus ou moins. Il y a une part d'improvisation, mais bien sûr, il y a une structure, voilà. Mais les timings et la durée en fait de toutes ces séquences, c'est intrinsèquement lié entre ce qui se passe sur scène au niveau du mouvement et la musique.
Ça, c'est pas banal. Hein. C'est souvent, en tout cas, j'avance avec des pincettes, hein, mais dans la danse contemporaine, on a souvent une bande de musique, une exactitude musicale qui est là par la bande. Peut-être quand on va dans les grands ballets classiques, il y a l'orchestre qui est là, mais là aussi, c'est très réglé. Hein. La part d'impro, elle est un peu dangereuse pour vous. Elle est excitante.
Elle est très intéressante. Elle est très exigeante parce que elle demande qu'on se trouve forcément. Donc, faut qu'on se trouve aux bons endroits, au bon moment. Donc, alors il y a des fois, on a des repères. Hein, on a mis des repères parfois visuels, mais c'est un peu en alternance. Parfois, c'est la danse qui est plus à se caler sur la musique, et parfois c'est plus la musique qui se cale sur la danse. C'est vrai que ça peut créer une zone de risque, voilà, une zone de risque où d'un coup on...
Mais qui donne l'excitation.
Oui, clairement, ouais. Clairement. Mmh. Puis c'est un timing qui est du coup très interne et c'est très intéressant, c'est un peu se connecter à l'horloge interne en fait.
Bon, vous avez compris hein, depuis le début de cet entretien que vous parlez d'une espèce de bourru rationnel qui a besoin de comprendre les choses. Les spectacles de danse, c'est souvent parler de lexique et de vocabulaire. Hein, si on l'a pas, c'est souvent difficile. Alors moi, je disais toujours, je peux aller à un ballet si je connais la musique et si j'aime la musique. Je peux parler du Boléro de Ravel, par exemple. Ben voilà, je la connais comme tout le monde et puis je l'apprécie. Donc je peux, grâce à cette musique qui ne me déstabilise pas, je peux entrer et me laisser aller à l'émotion de ce que je vois. C'est plus compliqué avec la danse contemporaine, hein, souvent.
Ça dépend. Ouais. Ça dépend, mais effectivement, il peut y avoir des de la même manière, du coup, faire appel à des musiques plus contemporaines. Mais je pense que voilà, on trouve toujours. Toujours une connexion avec le public quand même, on cherche quand même toujours à être compris, c'est quand même l'objectif final, c'est que le public qui est là puisse apprécier et puisse se reconnaître ou s'y retrouver. Donc il y a forcément une part d'abstraction, une part de
qui fait appel à l'émotion, qui fait appel au ressenti, ouais.
Il faut un peu se laisser aller.
Bon, on va se laisser aller, mais vous voulez raconter une histoire quand même. Hein.
Quand même.
À la folie, vous observez, donc je le disais, hein, vous êtes la folie, vous êtes deux danseurs sur scène. Il y en a un qui joue un personnage qui est là, qui est reconnaissable. Hein. C'est
Renaud
un être
Vizère,
humain,
oui.
Voilà, en l'occurrence c'est un homme. Et puis il y a un personnage caché qui est vous, qui apparaît, c'est ce que j'ai lu, hein, j'ai pas vu le spectacle, mais qui apparaît pour montrer qu'on a tous des petits moments d'absence, de folie, de bizarrerie.
C'est ça, c'est un peu son être intérieur, en fait. C'est celui, je dirais que c'est souvent celui qui est qu'on montre pas forcément en société ou dans des contextes où qui demandent une certaine norme sociale. Et puis c'est celui finalement qui peut faire un peu ce qu'il veut, comme il veut, même les choses qui ne se font pas.
C'est un peu le mauvais génie, le Jimmy.
C'est un peu le mauvais génie, oui. Oui, c'est
vous,
un peu.
Vous parlez des maladresses sociales. Moi, ça m'a beaucoup parlé, ça, c'est clair. Hein. On peut avoir des gestes, on peut avoir des moments où on ne se contrôle pas forcément, on n'y pense pas, et puis on se trouve tout à coup dans une situation un peu de malaise parce que les autres nous observent.
Exactement. Mais ce qui est intéressant, dans la manière, en tout cas, dont on a essayé de l'amener sur scène, c'est que cette maladresse sociale, elle vient du décor, en fait, et des objets qui entourent le personnage principal, et pas forcément du personnage principal. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans son environnement intérieur, et puis le canapé ou le banc sur lequel il va s'asseoir ne va pas vouloir qu'il s'assoie. Donc,
rébellion des objets.
C'est une rébellion des objets, exactement. Mmh. Et les objets, du coup, prennent vie, en fait, comme ça. C'est plus l'espace intérieur qui prend vie et qui fait appel à la fois, parfois, à notre imaginaire et en même temps, effectivement, à ces situations où rien ne se passe comme on voudrait que ça se passe.
Alors, j'ai vu des extraits, c'est souvent assez cocasse. Hein.
Oui.
Ça, on rit.
Ouais, j'espère. Oui, en tout cas, moi, j'ai beaucoup ri en le faisant... en le faisant ou en l'essayant. Et puis après, au-delà de ça, c'est aussi une relation un petit peu plus loin, c'est une relation à la folie. À la folie plus générale ou aussi parfois plus clinique. Simplement, j'avais pas envie d'en parler de manière dramatique et j'avais envie de l'évoquer plus par amour, en fait, de ça.
On peut se sentir déphasé parce qu'on a un petit moment de malaise, comme je l'évoquais. On peut aussi
Exactement.
Se sentir déphasé de façon clinique et douloureuse parce qu'on a un trouble du spectre autistique, par exemple, parce qu'on a j'ai pas envie de dire pathologie, parce qu'avec l'autisme, faut être très prudent et je comprends cela, mais quand on a une condition propre qui fait qu'on est déphasé par rapport à ce que
Clairement.
La société attend de nous.
Et puis plus personnellement, pour le dire rapidement, moi j'ai grandi en fait avec une personne qui avait des troubles très forts et puis c'est vrai que les situations finalement avec le recul sont aussi sont très cocasses quand même de l'extérieur aussi. Il y a ce phénomène d'imprévisibilité, c'est-à-dire que une journée qui est censée se passer normalement, quelque chose peut surgir en plein milieu de cette journée, on ne sait jamais quand, on ne sait jamais à quel moment. Et puis pour la personne qui le vit, c'est une perception de la réalité qui est déformée, parfois.
Ça fait des souvenirs, parfois douloureux, parfois cocasses. Ouais.
Oui, c'est une forme d'hommage, parce qu'au final, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Et on doit de toute façon aller avec à un moment ou à un autre.
Vous avez la tentation, vous l'avez peut-être fait d'ailleurs dans des spectacles précédents, d'ajouter la parole, du texte, voilà, c'est encore le vieux rationnel qui parle. Alors, expliquez-moi ce qui se passe.
j'aime beaucoup le texte. Ça m'est arrivé qu'on me le demande en tant qu'interprète et j'ai toujours beaucoup apprécié faire cet exercice. C'est un exercice que j'ai envie de développer plus prochainement, on va dire. Pour l'instant, c'est pas encore venu complètement, mais il y a des bribes qui s'installent.
Ça va être difficile de mélanger la performance physique qu'exige le ballet avec, j'ai l'impression que ça doit être deux hémisphères du cerveau qui travaillent différemment. Hein, d'un côté, l'hémisphère du corps, de l'expression, de la sensibilité, de l'émotion, puis de l'autre, si on doit tenir un texte, c'est la rationalité, ça va être difficile de mélanger les deux.
C'est très intéressant, en fait. D'un coup, ça complexifie les choses, et puis c'est une contrainte supplémentaire, puis il faut quand même dire ce qui est, on adore la contrainte dans notre métier. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour le danseuse, en fait, on va partir du corps pour aller vers la voix, et puis le théâtre, c'est la voix qui amène le corps. Et j'aime beaucoup ces deux phénomènes et ces deux approches, en fait. Je trouve que c'est extrêmement intéressant à explorer. C'est évidemment très difficile, un exercice très difficile, mais en fin de compte, quand on rentre dans un personnage ou quand on se met dans un état, on puise dans ce qu'on sait faire, et du coup le corps finalement image ce qu'on dit. Même là, quand je parle, finalement, j'ai des gestes avec mes mains parce que j'ai envie de me faire comprendre et de me faire, voilà, d'entendre. Et du coup, j'y amène le corps. Et en fait, c'est, voilà.
Je le fais aussi.
Exactement.
J'ai pas, l'entraînement et de discipline.
Exactement.
Je le fais aussi. Bon, alors on va redire. Hein, donc à la folie, c'est ce spectacle à l'Oriental. On va donner le nom de votre complice, hein, Renaud Vizer. On a parlé de musique. Il y a deux musiciens donc qui vous suivent. Hein, on l'a bien
Exactement.
Compris avec cette part d'improvisation. Il y a aussi de la vidéo.
Exactement. Il y a de la vidéo avec qui a été réalisée par Bastien Genoux. Et là, on est allé faire un petit tournage dans le paysage des Landes pour ces vidéos et pour nous garder en connexion avec un espace extérieur. Et ça, c'était assez important pour moi puisque le projet a démarré en fait un peu après Covid et on était encore confinés, donc on allait en fait faire nos premières explorations dans des parcs.
Dans la nature, parce que c'est là qu'on pouvait se réunir.
Et sur les plages. Et du coup, ça prend tout son sens parce qu'on parle de situations incongrues. Où on se retrouve à être un peu en malaise. Puis moi, j'essayais avec mon parasol à l'époque, je déambulais en fait sur la plage alors que les gens allaient se baigner, quoi. Et c'était très chouette.
Bon, ça c'est la partie préparation,
oui.
Vidéo, musique, expression, voilà. De la danse sur scène. On entend bien du coup le mot pluridisciplinaire, hein, que vous utilisez. On va terminer sur la compagnie. Vous avez une compagnie donc
oui.
avec Renaud Vizer.
Non. Alors la compagnie, en tout cas
Sada.
Là, je suis voilà la compagnie Sada. Là, je suis en tout cas représentante artistique sur ce projet-là. Et puis la compagnie Sada, elle est née en 2020.
Basée à Lausanne.
Basée à Lausanne, exactement. Et c'est une compagnie de danse, enfin de danse, en tout cas plutôt pluridisciplinaire, voilà.
C'est important l'idée de la. On voit très souvent ça avec le théâtre. Hein, on a vite envie de créer un groupe, de pouvoir monter ses propres projets. Dans l'univers de la danse, j'imagine, c'est un peu la même chose et que ce stade-là, c'est le stade de la compagnie. On commence à travailler de façon autonome.
Oui. C'est le stade, en tout cas, où on a envie de réaliser ou d'exprimer des choses et puis d'essayer aussi des choses qui nous sont propres. Je pense que c'est cette histoire du vocabulaire qu'on donnait tout à l'heure, c'est-à-dire on apprend pendant très longtemps un vocabulaire et puis finalement c'est comme quelqu'un qui a fait ses études de lettres et puis qui écrit un livre au bout du compte.
Elle le fait seule
et nous on le partage parce qu'on a besoin des autres pour créer. On peut pas faire ça tout seul et aussi parce qu'il y a énormément de médiums, de choses qu'on voit pas derrière un spectacle, toute la technique, tout l'aspect technique du spectacle, les lieux. Donc c'est normal en fait qu'on aille chercher d'autres artistes pour collaborer.
Bon, la fête de la danse un peu partout en Suisse romande, dans notre région, je crois qu'il y a guère que Vevey, hein, qui est très active en tout cas dans cette fête de la danse. Mais ça tombe bien puisque votre spectacle est là pour la représenter à la folie, donc à voir au Théâtre de l'Oriental à Vevey du 1er au 5 mai. Et voilà, c'est à 20h mercredi, jeudi, vendredi, le samedi et le dimanche à 17h. Merci à vous.
Samedi aussi à 17h, pardon. Samedi et dimanche à 17h.
Oui, samedi et dimanche à 17h à l'Oriental, à Vevey. Merci à vous, Anaïs Garou.
Merci beaucoup.
Radio Chablais, programme de nuit. Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Ah, Naël, les années 90, c'était bien, hein?
J'étais pas né dans les années 90.
Ah, t'étais né quand?
Bah, en 2009.
Donc en fait, tes années 90 à toi, c'est les années 2010?
Ouais.
Ok, t'étais où, Torse, par exemple?
À ce moment-là, j'avais 5 ans. J'étais en Italie chez ma demi-sœur.
Grima?
T'es en train de me dire que les années 14, c'est comme 2024?
C'est vrai qu'il y a des similitudes.
T'as vu la musique qui sort dernièrement? C'est tout de l'âme.
Ouais. Je suis d'accord, mais tu veux que je fasse quoi? Je bosse dans une radio.
Que tu diffuses un titre de 2014.
Ok. Fade Out Lines de The Avenger et Phoebe Kildir, ça y est?
Ouais, ça va le faire.
Tizi Avener pour taper du pied. T'as bon goût, gamin.
Merci.
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler.
Plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
L'orchestre d'Aigle organise un prochain concert à Olon. Un concert très très particulier, l'orgue dans toute sa splendeur. On en parle avec la présidente de l'orchestre d'Aigle, Kimberly Kastenberg. Bonjour.
Bonjour.
L'orgue dans toute sa splendeur. Alors, déjà...
ce serait au temple réformé de Olon.
Mais pourquoi, à la place de l'hôtel de ville, pourquoi ce choix? Vous avez dû vous déplacer là-bas, mais c'est justement pour l'orgue, non, me semble-t-il?
Oui, c'est un choix musical j'imagine qu'un de nos, enfin le prof qui est prof de musique à l'école de musique d'Aigle, qui a choisi. Moi j'étais pas dans la décision, donc je sais qu'il y a un bel orgue et je me réjouis de notre concert ce samedi.
Alors ce samedi, voilà. Justement, on l'a dit à Olon, pour profiter de cet orgue très particulier, l'orchestre d'Aigle, qui est d'ailleurs un des plus vieux orchestres amateurs du canton de Vaud, si ce n'est le plus, en 99, il y a le poids de l'histoire quand même un peu là derrière.
Ah oui, alors absolument, on doit se réinventer tout le temps et puis trouver des nouveaux programmes. Et là, on a deux organistes, donc comme j'avais dit, c'est l'école de musique d'Aigle, M. Pesandet, qui est prof, et l'élève, M. Favreau, qui jouera aussi une pièce en tant que soliste. Donc c'est vraiment super. Et c'est vrai que nos concerts offrent une grande variété. Vous pouvez tout consulter sur notre site, si jamais, pour la suite, parce qu'on a des gros concerts.
Ouais, c'est ça, alors j'allais dire, orchestredaigle.ch, donc l'orgue dans toute sa splendeur, au temple à Olon. Et puis on se retrouvera, hein, Kimberly, pour parler une fois plus longuement, justement, de l'orchestre d'Aigle, avec les 125 ans.
Chambre à l'Aiglon, on se réjouit, ce sera nos gros concerts de l'année pour fêter les 125, comme tu dis, Cyril.
Alors, on note toutes les dates. Dans toute sa splendeur, ça c'est ce samedi au temple à Olon, réservation orchestredaigle.ch. Merci d'avoir été avec nous, Kimberly.
Avec grand plaisir, merci.
Bonne journée, bye.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Mais c'est tellement de trucs qui se déroulent dans la plus magnifique des régions au monde. Le Chablais, la Riviera et le Pays d'en Haut. Même que des fois, on parle de trucs qui me surprennent. Aujourd'hui, ce sera le cas pour le Montaisan que je suis. Le futur musée de Monté. Oui, t'as bien entendu. Le futur musée de Monté, dont le nom reste à trouver, pourrait accueillir sa première exposition en fin d'année. Non mais heureusement que je suis assis. Non seulement on va avoir un musée, mais en plus, c'est pas pour dans 15 ans. Actuellement en travaux de rénovation dans le château de Monté, le lieu abritera dans 5 pièces entièrement équipées des expositions temporaires et fixes gérées par l'association du Vieux Monté. Créée en 1938, cette association a pour objectif de collecter, de conserver et de mettre en valeur le patrimoine de la ville. Là aussi, certains savaient peut-être pas qu'on en avait un. Pour définitivement nous prouver que oui, Guillaume Abbé est allé parler avec le président de l'association du Vieux Monté, Jérôme Butet. Je suis tout ouïe.
Il s'agit de 3, 4, 5 salles d'exposition. Une salle peut-être de travaux de groupe ou d'équipe aussi pour le tri du matériel que l'on reçoit, pour l'inventaire, et puis un espace aussi pour le comité de l'association, là où se tiendraient les séances, les rendez-vous avec des partenaires, etc. Il y aura aussi un petit espace pour préparer éventuellement, pour nettoyer certains objets, donc avec un lavabo, avec aussi des frigos en cas de vernissage et de réception.
C'est un lieu qui mêlera aussi exposition permanente, exposition aussi temporaire. Comment va se passer le calendrier et la vie du musée?
Alors en gros, effectivement, il y aurait certainement 3 salles réservées pour des expositions temporaires, lors de 2 à 3 mois, peut-être avec visite possible 2 à 3 fois par semaine. Ces expositions pourraient rester en place ensuite jusqu'à la prochaine organisation pour être visitées sur demande par des groupes ou par l'Office du tourisme, par exemple. Ensuite, 2 salles pourraient être consacrées au patrimoine montaisan et plus particulièrement aux industries, puisque le patrimoine de Monté actuellement est constitué des industries qui ont vécu à Monté. Certaines ont disparu bien anciennement ou très récemment.
Tout ça dans un écrin ultra moderne.
Voilà, effectivement, c'est vrai que notre patrimoine, il est constitué certainement de quelques objets. Nous avons beaucoup d'objets qui viennent de la verrerie, par exemple, mais sur les autres industries, nous n'avons pas grand-chose. Quand on pense à l'industrie des cigares montés, des savonneries ou des horloges, il y a peu d'objets qu'il reste. Par contre, on n'a pas seulement de documents, soit des documents des actes, de ce genre de choses, des décisions, des factures, des catalogues, etc. Et ça, il faut les mettre en valeur, mais c'est pas facile de les exposer tels quels. On peut peut-être les avoir sur des écrans et le public pourrait choisir lui-même ce qu'il a envie de voir et jusqu'à quel point il a envie de savoir par une cascade de menus jusqu'où il veut aller sur ces industries, par exemple.
Pour ce futur musée qui va s'installer ici dans le château de Montet, on a pensé aussi aux enfants et la façon d'intéresser peut-être le jeune public au patrimoine.
C'est d'avoir une salle où on pourrait faire venir des classes, les intéresser à l'exposition temporaire peut-être du moment ou aller aux expositions permanentes et avec des moyens ludiques, les faire participer un petit peu et intéresser à l'histoire de leur ville. Oui.
Il faudra, entre guillemets, passer par le recrutement peut-être d'un muséologue. Là, vous planchez aussi déjà sur la recherche de ressources humaines ici ?
Nous sommes en plein dedans, effectivement, oui. Nous allons certainement accorder un mandat à un bureau qui va nous aider, effectivement, pour l'aménagement muséographique, aussi l'aménagement technique, puisque, comme on le disait, nous avons peu d'objets, mais surtout des documents pour les mettre en valeur. Il y a des façons de faire maintenant, mais dans le comité, nous n'avons aucun professionnel de ce domaine. Donc, un bureau va nous aider pour la muséographie, d'une part, et aussi pour l'organisation de la première exposition que l'on entrevoit soit en novembre, décembre, soit au début de l'année 2025.
Avec une utilisation intérieure, extérieure, la création de jardins, ou aussi la possibilité d'utiliser la cour à l'avant du château.
Alors c'est vrai que ce château a des richesses, il est mal connu du public et même des Montaisans. Dans le cadre de nos projets, effectivement la cour pourrait être utilisée pour différentes choses. Et puis il y aura aussi la création d'un accès depuis une des salles sur les jardins autour du château. Alors ces jardins pourraient servir pour des prolongations d'expositions avec des sculptures ou des objets, mais aussi peut-être pour utiliser lors des vernissages ou des rencontres, ou même il y a disposition peut-être d'autres sociétés, d'autres événements.
Et si on remonte un peu dans le temps, ici, qu'est-ce qui se passait ?
Par exemple, dans la salle où nous trouvons maintenant, juste à l'entrée qui donne sur l'accès sur la cour, il y a eu une école, il y a aussi eu le poste de police. Avec l'école et le poste de police, on remonte déjà dans les années 50.
Quels sont vos souhaits pour ce futur lieu culturel ?
Eh bien, on espère déjà que les options que nous avons discutées avec la commune et avec les architectes nous permettront effectivement de remplir les buts de nos statuts, donc la conservation, la mise en valeur, et puis on espère qu'on pourra mettre en valeur de façon attractive nos collections, qu'elles intéresseront le public, et on espère voir venir le public, effectivement.
L'investissement s'élève à environ 650 000 francs pour la commune, mais faire découvrir au monde entier, mais aussi aux Montaisannes et Montaisans qu'on a un patrimoine, bah ça vaut au moins ça.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
On continue ce mag avec des tout-petits, ou plutôt avec celles et ceux qui les gardent. La FRAGE, la fêtière des réseaux d'accueil de jour des enfants du canton de Vaud, a dévoilé en fin de semaine dernière sa stratégie 2024-2032. Afin de coordonner ses activités et de répondre aux enjeux toujours plus importants de l'accueil de jour de l'enfance, l'association souhaite proposer de nouvelles pistes d'action politique et opérationnelle. Parmi les priorités, l'accueil inclusif ou encore l'attractivité des métiers liés à la petite enfance. Au micro de Julie Gay, la présidente de la FRAGE, la Veuvezanne Laurie Villomet, est revenue sur le rôle de la fêtière vaudoise.
Son objectif premier, c'est déjà de représenter les réseaux d'accueil de jour du canton de Vaud. Donc à la base, c'est le but premier de la FRAGE, c'est pour ça qu'elle a été créée. Et du coup, ça fait que c'est un interlocuteur unique, central, qui peut représenter les réseaux, donner une réponse harmonisée, une vision d'ensemble aussi sur l'accueil de jour cantonal. Et puis c'est vraiment un organe du coup trouve une association qui est au service des réseaux et de l'accueil de jour.
Alors la Frège, elle représente 24 réseaux précisément. Comment ça se passe? C'est vous qui allez démarcher un peu les différents centres d'accueil para-préscolaires, ou alors on vous demande de faire partie du réseau? C'est comment que ça se passe concrètement?
Je dirais que quand elle a été créée, la majorité des réseaux l'ont rejoint, puis maintenant on est vraiment dans une stratégie de croissance, donc on a effectivement envie que les nouveaux réseaux ou d'autres anciens réseaux qui ne sont pas membres nous rejoignent. Donc on fait quand il y a des assemblées autour de l'accueil de jour, on va discuter avec les réseaux qui ne sont pas membres, on fait vraiment un peu, on peut appeler ça du lobbying.
Alors hier soir vous avez tenu une assemblée générale, l'assemblée générale de la Frage. Vous avez notamment dévoilé la stratégie 2024-2031. Il fallait une nouvelle stratégie. Comment ça s'est passé? Vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez embauché une nouvelle personne pour élaborer un peu ce catalogue.
Oui, c'est ça. Il y a 2 ans, on a vraiment eu un questionnement au niveau de la Frage, mais maintenant, en fait, on a un interlocuteur unique dans le canton et il faut qu'on se positionne comme tel. Donc, on a engagé il y a une année un collaborateur scientifique qui était en charge notamment de développer cette stratégie. Donc, pour ça, il est allé rencontrer chaque réseau, un membre politique opérationnel de chaque réseau, pour voir un petit peu quels étaient les enjeux. Et cette stratégie, elle s'est construite comme ça. Et puis, hier soir, on a pu la présenter. C'était important, pour ces prochaines années de bien positionner la Frage.
Vous avez mentionné hier soir des priorités, notamment la défense politique de l'accueil du jour de l'enfance. On doit continuer tous les jours à se battre dans ce sens.
Oui, c'est vraiment essentiel. Dans le canton de Vaud, les choses se passent plutôt bien, mais on a vu sur Genève récemment où l'accueil de jour a été attaqué. Donc nous, c'est un peu notre but premier, cette défense de l'accueil de jour, la défense de la qualité de l'accueil de jour, la défense des réseaux. Donc oui, c'est essentiel.
L'accueil inclusif, le fait d'avoir des enfants à besoins particuliers qui se mélangent tout à fait avec des personnes qui ne vivent pas avec un handicap, ça c'est une envie que vous avez envie de poursuivre ou de promouvoir?
Ça c'est vraiment, je dirais, une des thématiques centrales de la stratégie, mais aussi actuelle. La semaine dernière, on a publié avec d'autres associations une prise de position, justement, qui demande au canton un concept d'inclusion dans l'accueil de jour des enfants. Donc on est vraiment en plein dedans, dans le développement de cette stratégie, d'une vision cantonale sur ces questions-là. C'est super important, ça va continuer d'être important les prochaines années.
Ouais, dans quelle mesure les différents réseaux qui sont associés à la Frage ont une marge de manœuvre, peuvent choisir, nous on a envie d'aller dans cette dynamique-là, nous on n'est pas apte, on n'a pas l'effectif nécessaire pour le faire?
Mais c'est bien ça qu'on reproche un petit peu, c'est que pour l'instant c'est un peu flou. C'est un peu au bon vouloir des réseaux, des communes, et puis il n'y a pas vraiment de vision globalisée. Ça crée pas mal de disparités en fait entre les communes et les réseaux. Les réseaux qui ont envie d'investir là-dedans doivent le faire eux-mêmes, investir eux-mêmes souvent beaucoup d'argent. Et puis c'est pour ça qu'on s'est réunis, qu'on a dit mais maintenant on aimerait une vision globale aussi pour que chaque enfant en fait, et peu importe dans quel réseau il soit, qu'il ait finalement les mêmes chances, et aussi pour le personnel.
Justement, on parle du personnel, il y a une autre priorité de votre stratégie, la formation. Est-ce qu'on se désintéresse un peu de ces métiers de l'éducation qui sont liés à l'enfance? Il y a besoin de s'investir et de donner envie et de dire c'est un beau métier, allons dans ce sens.
Il y a 2 axes, c'est sûr que c'est un métier qui n'est pas très, très visible. Il faut absolument le revaloriser. Donc ça, c'est un des axes qui est très important. On voit que les jeunes, par exemple, ne pensent pas à l'accueil de jour comme formation tertiaire, par exemple. Au niveau de l'apprentissage, c'est un peu plus, ça a une meilleure réputation, mais moins au niveau tertiaire. Et puis, l'autre gros point en lien avec la formation, c'est la pénurie de personnel à laquelle on est confronté. Pour l'instant, ça va, mais tous les réseaux disent bientôt, on n'arrive plus à recruter. Donc oui, on doit s'y attaquer et c'est un autre axe qui est super important.
Radio Chablais, programme de nuit.
On va terminer ce mag avec d'un côté du métal industriel et de l'autre moi qui joue les journalistes. Samedi dernier, avec en première partie les groupes Montezans de Jane Barnell et Jacuzzi Jaguar, le groupe français Sidi Larsen se produisait au Pont Rouge de Monté. Un groupe qui a sa fanbase dans la région, on l'a vu durant le concert, mais bien que la Suisse ne soit pas encore pour eux un territoire conquis, ça devrait arriver. Sidi Larsen, c'est surtout un groupe qui a une vraie proposition musicale avec un style qui gratte où ça démange, un rythme percutant et une intensité qu'on peut qualifier de poussive. Mais qui sont ces Toulousains qui sont venus conquérir le Chablais? En somme, Sidi Larsen, c'est quoi? Si tu as raté leur concert, voici une petite explication de la main de Viber, l'un des 2 chanteurs du groupe, histoire de bien te faire regretter de ne pas être venu.
Alors Sidi Larsen, c'est notre 8e album. Ce soir, c'est le début de la tournée de Que la lumière soit à Tours, donc le nom du nouvel album Que la lumière soit.
Qui est sorti cette semaine.
qui est sorti le 19 avril, exactement. Et on est en train de débuter la tournée avec voilà, des belles dates. C'est très bien reçu, on se fait très plaisir. Et on présente des nouveaux morceaux, dont un en plus en exclusivité totale et mondiale, puisqu'on n'a jamais joué sur scène encore.
Arrête, ça va être ce soir à monter ?
Voilà, c'est ce soir.
On a enregistré l'album, là maintenant il va falloir le jouer. C'est quoi cette sensation qu'on a, justement après l'avoir travaillé autant, l'avoir enregistré, qu'est-ce qu'on ressent pour le jouer, en le jouant pour la première fois ?
Il y a pas mal d'étapes, c'est-à-dire que ouais, il y a tout l'enregistrement et la première fois qu'on reçoit le master tout terminé, et donc là on l'écoute beaucoup et voilà les détails tout ça, et puis après on le bosse en répétition, là déjà on commence à kiffer, voir ce qui va pouvoir se passer et qui a l'air de marcher. Et puis après, premier test sur les premières dates, avec la difficulté en plus, c'est que... Enfin, c'est une difficulté, c'est un problème de riche quand même. C'est de... Avec 8 albums, faut faire un set qui tient la route. Il y a des morceaux qu'on est obligé de jouer, incontournables, et qu'on prend plaisir à jouer d'ailleurs. Mais il faut réussir à caser les nouveaux pour que le rythme soit efficace tout le long du set, etc.
Oui, parce qu'il y a ce côté-là où on a les chansons que tous les fans aiment, qu'on est obligé de jouer, et puis en même temps, il y a ce qu'on vient de produire et puis qu'on a envie de jouer.
Oui, évidemment, on est là pour, avant de tout défendre le nouvel album, donc oui, il faut quand même intégrer des nouveaux morceaux. On a voulu y aller doucement pour se les mettre dans les doigts et dans nos cordes vocales, et ça se passe très bien. Il y a des petits ajustements et tout, mais c'est un plaisir, parce que c'est la deuxième vie. Et je dirais pas la vraie vie, mais en tout cas, oui, c'est une deuxième vie des morceaux. Leur vie en live, elle sera très longue, elle ira très loin, et il y aura de multiples évolutions dans des détails, etc. Effectivement, des morceaux qu'on joue depuis 15 ou 20 ans, ils ont évolué au fil du temps, quoi. C'est pas, ils ont pas changé radicalement, mais il y a différentes façons de faire, différentes façons de les amener, etc. Donc ouais, c'est un bonheur, puis voilà, les partager en direct avec les gens et voir ce que les morceaux dégagent, parce que à partir de là, ils nous appartiennent plus vraiment, ils appartiennent aux gens, et c'est cette énergie là qui va faire devenir ces morceaux.
Vous partez du principe qu'elles vous appartiennent plus, finalement c'est quelque chose que vous avez fait et qu'elles doivent vivre de leur propre gré, pour ainsi dire.
Ouais, c'est ça, ouais, on n'a pas envie de limiter les choses. Et là, tu vois, à l'heure actuelle, on sait pas quels sont les... On s'en doute, mais on n'est pas sûr de quel single il y aura, par ceux qu'on a sortis, mais au fil du temps. Je pense à Des Milliards, par exemple, quand on l'avait sorti sur album, on pressentait qu'il pouvait se passer quelque chose, mais que ça devienne un classique du groupe à ce point, on l'avait pas trop vu venir. Et donc ça, c'est passionnant aussi. Et ça, c'est le public qui le fait. Ça, effectivement, c'est pas nous. À moins que, qu'on joue mal des morceaux, ou qu'on fasse exprès qu'on se force à jouer des trucs qu'on kiffe pas. Mais vu que c'est pas le cas.
Ça a pas l'air de style de la maison, c'est ça ?
Non. Nous, on donne tout ce qu'on a et on fait ce qu'on aime. Ça, y a aucun souci. Et donc après, c'est vraiment le public qui adopte les morceaux et qui les fait devenir ce qu'ils seront plus tard. Voilà.
Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, faut savoir que vous chantez en français. C'est assez rare pour le souligner. Il y a beaucoup de groupes qui passent à l'anglais pour des raisons ou une autre. Vous avez décidé de rester sur le français. Pourquoi ? Enfin, sauf sur Sunburn, j'ai écouté tout à l'heure, ou dans le dernier album justement, mais sinon c'est surtout en français.
Oui, même Sunburn, il y a 2-3 mots, mais des fois il y a des notions, comme j'ai déjà dit pour l'album précédent, qui marche mieux en anglais, donc pourquoi pas, mais c'est vraiment, c'est très très limité, le cœur de l'histoire, c'est vraiment du français. On y tient parce que voilà, c'est notre langue maternelle, et on trouve qu'on va plus loin avec ça, et que c'est plus sincère et surtout plus proche de nous. Et comme on a envie de que les gens puissent s'identifier aussi à notre musique, vraiment partager les choses au premier degré, le français nous paraît le plus évident.
Surtout que vos textes sont plutôt profonds, résolument engagés. Est-ce que justement c'est le meilleur moyen, c'est finalement le français ?
Oui. Alors déjà merci de dire qu'ils sont profonds, ça fait plaisir. On essaie, ouais. Et surtout, ils nous ressemblent. Voilà, ce qu'on chante, c'est nous. Et je pense que les gens sentent ça. Et du coup, on a l'impression qu'ils viennent nous voir, pas juste écouter des morceaux d'un groupe qui joue. Il y a un truc peut-être plus intime.
Et en parlant d'intimité, ce soir, c'est une toute petite salle. D'habitude, vous jouez dans des plus grandes salles que ça, à guichets fermés, en France, en Belgique. Qu'est-ce que ça fait, justement, ce petit côté intime? Comment vous l'appréhendez?
Ah, nous, on adore faire exploser les clubs quand c'est possible et qu'il y a du monde, que le son est bon. C'est vraiment un plaisir parce que c'est une autre énergie, quoi. C'est une énergie très, très rock, très... Voilà, on va transpirer ensemble, ça c'est... Et après, dans d'autres lieux, mais comme on a fait hier à Aix, là, c'est une grande salle, et il y a plus de distance, donc forcément, c'est plus par procuration, voilà, c'est moins proche. C'est très bien aussi, mais c'est une expérience différente. Vraiment, on aime les deux. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir proposer le meilleur spectacle possible partout, d'essayer de s'adapter au maximum, et voilà, j'espère que ça marche.
Pour les gens qui sont pas venus, une petite dernière chose, on va écouter une chanson, je te donne carte blanche, quelle chanson on va écouter?
On va écouter Adelphité, et c'est ce morceau-là qu'on va jouer ce soir pour la première fois.
Et le morceau des potes, je préviens, avis aux fans de métal, vous allez kiffer, les autres, découvrez tout simplement. Cette interview avec Viber de Sidi Larsson est à retrouver en replay sur notre site et notre application mobile. Et maintenant, attention métal.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Pas des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Qu'est-ce que c'est un concours de Miss? Sérieux, personnellement, j'en ai jamais fait, ou peut-être pas encore, il faut pas cracher en l'air, mais j'ai toujours eu un petit peu de curiosité pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qu'ils font qu'on voit pas et ce genre de truc. Bon, ben, il se trouve que je suis avec Alizé Delgado, salut.
Salut Loïc.
Tu es finaliste pour le concours Miss Suisse francophone 2024.
C'est exact.
Tu viens de Lézin, tu représentes le canton de Vaud et tu le dis toi-même que tu représentes aussi un petit peu le Chablais.
Le Chablais vaudois, exactement.
Bon, alors ça déjà, j'adore. Approche-toi un tout petit peu plus du micro, s'il te plaît. Et puis, je vais pousser là, tac. Et ça, j'aime bien parce que moi, je suis très, très, très chablaisien. Bon, commençons directement dans le vif du sujet. Un concours de Miss, c'est quoi?
Alors, fondamentalement, un concours de Miss, c'est un concours de beauté qui a pour but d'élire une représentante de sa région, de son canton, ou bien de son pays, en l'occurrence, comme pour Miss Suisse francophone. Le but ultime étant de trouver son Mister et sa Miss, parce que les deux sont en même temps pour la Suisse. Pour Miss Suisse francophone, c'est une vraie aventure qui va beaucoup plus loin que ça et qui va durer 9 mois. Mais depuis les premiers castings jusqu'à la finale, il y a 9 mois d'aventure où il va se passer énormément de choses, énormément de belles rencontres, énormément de beaux partages, de beaux moments. Donc c'est beaucoup plus complet qu'une simple élection de beauté, en tout cas pour ce concours-là en Suisse.
Bah ouais, parce que 9 mois, on imagine qu'un concours de Miss, normalement, bon ben, ok, t'as peut-être la finale cantonale ou un truc comme ça, la finale régionale, mais 9 mois pour une soirée, en fait, c'est beaucoup plus qu'une soirée, un concours de Miss.
Alors, il y a au moins 2 soirées. Il y a eu déjà l'étape de la demi-finale qui s'est tenue au mois de février à Bulle et la finale qui va se tenir à Écublens le 30 juin. Mais pendant ces 9 mois d'aventure, il y a énormément de promotours, énormément d'événements autour de ce concours qui font que c'est hyper chouette d'avoir ces 9 mois pour vivre cette expérience. Et on apprend à découvrir des gens, se découvrir soi-même. Il y a des vrais moments de partage. Et du coup, c'est assez chouette d'avoir ce grand laps de temps sur l'année 2024 pour vivre à fond cette expérience.
Juste rapprocher un petit peu. Ouais, rapproche-le. Yes, là, on y est. Parfait. Et donc, 9 mois. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre justement comme expérience? Donne-nous juste, tease-moi un petit peu parce qu'après on discutera un petit peu plus de ça en deuxième partie, mais qu'est-ce qu'on vit durant ces 9 mois d'expérience?
Il y a beaucoup de promotours.
Un
promotour, c'est des défilés des demi-finalistes ou bien des finalistes dans des lieux, des sponsors. Donc ça rassemble beaucoup de familles, beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, qui viennent nous voir, nous soutenir, qui peuvent voter. Il y a également beaucoup de shooting dans des lieux tout à fait différents. On a été à Stade, on a été dans beaucoup d'endroits auxquels on n'aurait pas forcément pu se déplacer. Notamment, on était jusqu'à Berne. C'était hyper chouette. Et il y a aussi des moments comme des journées sportives ou bien des rassemblements qui permettent vraiment d'assurer la cohésion sociale du groupe. Et ça, c'est hyper chouette.
Tu parles de cohésion sociale du groupe. Donc, tu es en train de me dire qu'en fait, malgré que vous soyez
on va, j'allais dire un petit peu comme vous êtes je perds mes mots.
En compétition.
En compétition. Merci beaucoup. C'était difficile. Vous êtes en compétition, mais en même temps pas. Comment ça se passe?
Finalement, pas tant que ça. Alors, ça reste une compétition, bien sûr, dans le sens où, à la fin, il y a deux écharpés, un garçon et une fille. Mais finalement, pas tant que ça. En tout cas, moi, le maximum de soutien que j'ai pu recevoir, c'était au sein même de cette aventure, de par les autres candidats. On passe 9 mois ensemble, ce qui est énorme. On se voit en ce moment une fois par semaine, ce qui est tous les week-ends, ce qui est hyper chouette. Donc, il y a des vrais liens qui se tissent. Non, l'esprit de compétition n'est pas encore, en tout cas, vraiment là.
Déjà, tu vois, t'as pu déjà démystifier quelque chose, parce qu'on pourrait imaginer qu'un concours de Miss, c'est presque un combat à mort, et en fait, pas du tout. Il y a une super bonne ambiance. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale, et puis qu'on revienne dans un tout petit moment, histoire de continuer à parler de ces petits détails dont on ignore tout dans un concours de Miss.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
C'est tout de suite beaucoup plus clair.
Un concours de Miss, c'est avant tout un concours de beauté qui cherche à élire son ambassadrice, qui se discute d'abord au niveau régional, ou cantonal, ou suisse, ou mondial, ou universel. Suivant le concours, Alizée Delgado est finaliste à Miss Suisse Francophone 2024, qui est une aventure qui dure 9 mois, avec des événements promotionnels, des défilés, des shootings photos dans des endroits géniaux, et avec un travail fait énormément sur la cohésion. Alizée Delgado, finaliste de Miss Suisse Francophone 2024. Ça m'a beaucoup surpris, en fait, que vous parliez que tu parles de cohésion de groupe, alors que finalement, vous êtes censé être en compétition. Comment ça se construit, ça?
Alors oui, on est toujours quand même malgré tout en compétition. Du reste, ça va bientôt faire 9 mois qu'on se connaît, qu'on se côtoie vraiment une fois par semaine. Donc non, moi, de mon côté, en tout cas, je me suis fait de très bonnes copines. Et j'ai pas forcément l'intention que ça s'arrête avec la fin du concours. Mais on a aussi tellement d'événements où on est... entre nous, en groupe, où on doit travailler ensemble, que forcément, il y a des liens qui se créent. La compétition, elle arrive plus après. En tout cas, de ma part, l'esprit de compétition arrive bien, bien après. Mais on verra la finale.
Après, c'est vrai que la finale, parce que bon, l'esprit de compétition est peut-être pas ultra incisif, mais en même temps, on est quand même là pour gagner, sinon on se présente pas, on est d'accord.
On est d'accord. Je m'entends quand même du reste très bien avec les Valaisannes, je tiens à le préciser.
Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est la chablaisianitude. Et est-ce que tu sais s'il y a d'autres concours qui mettent autant en avant cette cohésion de groupe? Ou c'est surtout Miss Suisse francophone 2024?
Je pourrais pas parler de ce que je connais pas, notamment pour les autres pays où je me suis pas présentée. En tout cas, pour la Suisse, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de chance que cette aventure soit faite ainsi. Notre directeur fait des concours de beauté depuis 20 ans, Ferdi Avmedoski, qui est un homme juste du concours de beauté depuis 20 ans. Miss Suisse francophone existe depuis 2012. Donc je crois qu'il a vraiment créé un concept assez long dans le temps, de manière à ce qu'on ait la possibilité, le temps de créer ces liens aussi. Ça va nous faire des super souvenirs. On est hyper bien encadrés. Et je trouve ça plutôt chouette, finalement. Donc, je pense que non, en Suisse, on a cet avantage-là de pouvoir créer des liens aussi forts.
Et puis, si on parle un petit peu si on continue de parler justement de tout ce qui se passe en coulisses, tu me parlais tout à l'heure hors micro de coaching. De quoi est-ce qu'il s'agit?
Alors, les coachings, c'est des événements où on va parler par des professionnels, soit des anciens candidats, des anciens écharpés qui viennent et qui nous donnent leurs conseils, soit par des vrais professionnels, que ce soit notre parrain ou notre marraine qui sont des pointures au niveau artistique qui peuvent nous transmettre leurs conseils, ou bien directement les membres du comité. Mais on est vraiment drivé sur l'image qu'on doit avoir, l'image qu'on doit donner, la manière de marcher, de défiler. Tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Je pense que toutes les candidates et tous les candidats, aussi charmants soient-ils, finalement, sont pas arrivés dans ce concours avec tous les outils. Et c'est important aussi l'encadrement qu'on a de la part du comité pour nous donner tous ces outils et faire en sorte qu'il y ait un avant et un après. On a le temps de voir pendant ces 9 mois toute la progression. Et c'est ça ce qui est aussi chouette à la fin, c'est de pouvoir voir la progression que chaque personne a faite durant cette aventure.
Oui, parce qu'en fin de compte, les participants et participantes ne sont pas forcément des mannequins professionnels, ils n'ont pas tous ces tips. Et c'est ces choses-là que vous apprenez, c'est des choses du mannequinat ou bien est-ce qu'il y a encore d'autres choses?
Oui, alors c'est des choses du mannequinat, c'est aussi la manière de poser devant un photographe, c'est aussi la manière de marcher avec des talons. C'est tout ce qui peut entourer un concours de Miss et qu'on n'a pas forcément quand on arrive dedans. On est très bien encadré et je pense qu'on a beaucoup de chance de ce point de vue-là dans cette aventure.
Est-ce qu'il y a un petit détail peut-être qu'on pourrait ignorer, qui se voit pas à la caméra, qui se voit pas le jour des concours, où on a que vous vivez un petit truc?
Il y a toujours les quelques petites minutes de stress avant de monter sur scène, je pense. Ces moments où on est dans les loges justement tous ensemble, mais ça fait aussi partie des moments où les liens se tissent. On est un petit peu comme ça, on est à 3-4 minutes de monter sur scène et il y a un petit peu ce stress, mais en fait on est tellement bien entouré et l'ambiance est tellement bonne dans tous les événements qu'on fait que finalement on est très content d'être là et puis le stress s'en va assez vite. Mais par exemple ce week-end, on est à Palexpo à Genève pour le CIWEL, le Salon International de la Beauté. Et bien sûr, devant autant de personnes, il y a toujours ces quelques minutes de stress, mais une fois sur scène, finalement, ça passe.
Oui, et puis en plus, peut-être là, plus qu'ailleurs, parce que là, c'est le salon de la beauté, donc forcément, vous êtes un peu une inception du coaching.
Oui, et alors on est très très content de pouvoir défiler dans ce salon. C'est un grand salon qui se passe à Genève, donc le 4 et 5 mai. Vous pouvez acheter du reste vos billets sur le site internet du CIWEL, mais ça va être vraiment chouette. Tous les finalistes seront là. Et donc j'encourage vraiment toutes les familles à aller encourager ces personnes.
Et par contre, il y a moi je me posais la question en fait, comment ça fonctionne, c'est-à-dire c'est quoi les étapes pour arriver à